Merci d'écouter RFI. Il est 4h du matin ici à Paris, 1h de moins en temps universel.
Simon Bourtembourg.
Les alliés de Kiev affichent leur unité sur les sanctions contre la Russie. Les dirigeants d'une trentaine de pays étaient réunis hier pour un sommet sur la guerre en Ukraine à Paris. Nous le verrons, des questions demeurent encore sur les futures garanties de sécurité et de paix pour Kiev. Les bourses mondiales souffrent après l'annonce de nouveaux droits de douane américains sur l'automobile. Le secteur craint une escalade de la guerre commerciale à l'échelle mondiale. À la une également, la banque du Liban se dote d'un nouveau gouverneur. C'est un gestionnaire de patrimoine qui a été choisi pour mener les futures négociations avec le FMI pour débloquer une aide financière. Et puis, en France, les réquisitions du parquet dans le procès de Gérard Depardieu. 18 mois de prison avec sursis ont été demandés contre l'acteur français jugé pour agression sexuelle. Les alliés de Kiev ne lèveront pas les sanctions émises contre la Russie. Décision à l'unanimité des représentants d'une trentaine de pays réunis hier à Paris. Et pour piloter justement cette coalition à la manœuvre, Keir Starmer et Emmanuel Macron, la Grande-Bretagne et la France ont commencé à esquisser des plans pour envoyer une force de réassurance sur le sol ukrainien pour surveiller un éventuel cessez-le-feu avec la Russie. Et à l'issue de la réunion à l'Elysée, le président ukrainien a donné une conférence de presse. Volodymyr Zelensky dit regretter qu'il y ait toujours un flou au sujet de ce potentiel déploiement de contingents de pays alliés en Ukraine.
Le fait que de plus en plus de pays soient prêts à garantir la sécurité de l'Ukraine en envoyant leurs contingents, certains dans le ciel, d'autres dans la défense aérienne, certains sur terre et d'autres en mer, est une bonne nouvelle. Mais il reste encore beaucoup de questions concernant le mandat, les responsabilités, la composition de cette force, ce qu'elle pourra faire et qui la dirigera. Il y a beaucoup de questions mais peu de réponses pour l'instant. Comme l'a déclaré Emmanuel Macron, il y aura prochainement une mission franco-britannique en Ukraine. Je pense que d'autres pays pourraient encore s'y joindre. Ils le feront pour prendre connaissance du cadre préparé par l'Ukraine, la façon dont nous envisageons ce contingent, où il pourrait être déployé et qui pourrait le constituer.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Les États-Unis ne sont plus un partenaire fiable pour le Canada. C'est Mark Carney qui l'affirme, allant jusqu'à déclarer que le temps de la coopération étroite avec Washington était terminé. La prochaine rencontre entre le premier ministre canadien et le président américain promet donc d'être tendue. Elle doit avoir lieu dans un ou deux jours et à la demande des États-Unis, a précisé Mark Carney. Entre les deux hommes, il sera bien sûr question des droits de douane que l'administration américaine sort de son chapeau depuis le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Les dernières annonces en date concernent le secteur automobile. Toutes les voitures qui ne sont pas fabriquées aux États-Unis seront taxées à 25% à l'importation et ce à partir de mercredi prochain. D'ici là, Donald Trump peut encore changer d'avis. Mais l'industrie automobile européenne craint une escalade de la guerre commerciale à l'échelle mondiale. Un avis partagé par Jonathan Oriordan, il est directeur du commerce international et des douanes pour l'Association des constructeurs européens de l'automobile.
On prend souvent l'exemple de la BMW X5 qui est fabriquée en Caroline du Sud. La marque allemande a une usine là-bas depuis près de 30 ans. Ce modèle n'est fabriqué qu'aux États-Unis et il est ensuite exporté partout dans le monde. L'une de nos préoccupations majeures, c'est qu'il y ait une escalade. Des pays comme le Canada ont déjà annoncé des mesures de rétorsion. L'Union européenne se prépare également à contre-attaquer. La situation monte en intensité et nous craignons que des pays tiers imposent eux aussi des droits de douane sur les exportations américaines de véhicules européens. C'est un risque supplémentaire malheureusement, que ces voitures européennes fabriquées par des usines américaines soient elles aussi la cible de mesures de rétorsion. Ce serait un triple coup dur pour nous.
Des propos recueillis par Mélissa Barra de la rédaction en espagnol de RFI. RFI, 5 heures passées de 5 minutes à Beyrouth où le gouvernement a nommé un nouveau gouverneur de la Banque du Liban. Il s'agit d'un poste clé en prévision des négociations avec le Fonds monétaire international pour le déblocage d'une aide financière. Karim Souaed succède donc à Riyad Salameh, lui qui a été incarcéré en septembre dernier. Il fait d'ailleurs l'objet de nombreuses enquêtes. Paul Ralifé.
Karim Souaïd, un gestionnaire de fortune diplômé de la prestigieuse université américaine de Harvard, était le candidat favori du président Joseph Aoun. Le premier ministre Nawaf Salam s'est opposé jusqu'à la dernière minute à sa nomination, justifiant sa position par sa priorité de rendre aux déposants leurs épargnes, bloquées par les banques depuis plus de 5 ans. En 2023, Karim Souaïd avait appuyé une proposition de sortie de crise élaborée par un institut rattaché à Harvard. Le plan préconisait une ponction substantielle sur les dépôts bancaires en faisant assumer l'essentiel des pertes aux déposants. Une tâche titanesque attend le nouveau gouverneur de la Banque centrale. Il doit accompagner le gouvernement dans l'élaboration des textes législatifs nécessaires au lancement des réformes exigées par la communauté internationale. Il doit aussi jouer un rôle clé dans la restructuration du système bancaire et la répartition des pertes causées par l'effondrement économique et financier de 2019, estimé à plusieurs dizaines de milliards de dollars. Le nouveau patron de la Banque du Liban doit aussi participer à un nouveau cycle de discussions avec le FMI pour permettre au Liban de souscrire à un programme d'assistance et réunir quelque 11 milliards de dollars nécessaires à la reconstruction des zones détruites par la dernière guerre. Paul Khalife, Beyrouth, RFI.
Le président libanais et son homologue français s'entretiendront ce vendredi avec le président de la transition syrienne. Un entretien trilatéral à distance avec Ahmed al-Shara qui, lui, ne sera pas à Paris. Ce sera l'occasion pour les trois chefs d'État d'évoquer la question de la sécurité sur la frontière syro-libanaise où des tensions ont donné lieu à des affrontements, a fait savoir la présidence française. Emmanuel Macron souhaite le voir revenir en homme libre. Le président français a appelé les plus hautes autorités algériennes à libérer Boualem Sansal. L'écrivain franco-algérien a été condamné hier à 5 ans de prison ferme par un tribunal en Algérie. Et bien dans cette affaire, Emmanuel Macron appelle donc Alger au bon sens.
Je veux ici dire tout mon soutien à M. Sansal, à lui et à sa famille. Et je souhaite vivement qu'après ce jugement, il puisse y avoir des décisions claires, je dirais humaine et humanitaire, par les plus hautes autorités algériennes pour pouvoir lui redonner sa liberté et lui permettre à la fois de redevenir un homme libre et de se soigner parce qu'il combat aussi la maladie. Et je sais pouvoir compter sur à la fois le bon sens et l'humanité des autorités algériennes pour prendre une telle décision. En tout cas, je l'espère fortement.
Et de son côté, le Premier ministre français François Bayrou a évoqué une condamnation injustifiable. 7 ans de prison et 300 000 euros d'amende demandés contre Nicolas Sarkozy. Les réquisitions du parquet national financier à l'encontre de l'ancien président français sont extrêmement lourdes. Nicolas Sarkozy, qualifié comme commanditaire d'un pacte de corruption noué avec le dictateur libyen Muammar Kadhafi pour financer sa campagne présidentielle de 2007. L'ex-chef de l'État a dénoncé l'outrance de la peine réclamée et assuré qu'il continuerait à se battre pied à pied pour la vérité. Il pourra le faire la semaine prochaine lors des plaidoiries de la défense. Autre procès largement suivi en France, celui de Gérard Depardieu. Le parquet requiert 18 mois de prison contre l'acteur jugé pour agression sexuelle. 13 femmes l'accusent, 3 d'entre elles ont témoigné, des témoignages que dénonce l'avocat de l'acteur français, Marie Casadebé.
Durant près de 3 heures, Jérémy Assou s'est efforcé de démontrer que toute cette affaire relevait du complot, un mot qui était resté en suspens au cours de ces 4 jours d'audience. Le patron, selon l'avocat, c'est Mediapart, le journal d'investigation à l'origine des révélations d'agressions sexuelles. L'objectif, la mise à mort de Gérard Depardieu. L'avocat parle d'une organisation, d'une programmation des dépôts de plaintes, une complicité même du parquet qui étrangement fait le lien entre les dossiers. Des affaires prescrites, précise-t-il, viennent étoffer le dossier vide d'Amélie, des plaignantes. Il poursuit sa démonstration. Tous les témoins d'une scène d'agression reprennent les détails parus dans le journal, mais c'est difficile de mentir à plusieurs, remarque-t-il. Mais pourquoi la décoratrice aurait inventé une agression sexuelle? Pourquoi une assistante du réalisateur aurait menti pour la couvrir? La vengeance, avance Maître Assous, car il le reconnaît, son client peut être odieux, et il l'a été, avec la décoratrice, avec l'assistante, mais aussi avec Sarah, la seconde plaignante. L'avocat se penche enfin vers le président du tribunal pour demander la relaxe pour son client et lui rappeler à quel point être accusé d'agression sexuelle peut détruire un homme. Marie Casadebé, au tribunal judiciaire de Paris, RFI.
À Paris, où il est 4 heures passées de 10 minutes.